On aurait tort de penser que la réception de l'encyclique Fides et Ratio n'a eu lieu que dans l'Église. Bien des philosophes de la philosophie séculière et même médiatique ont d'emblée exprimé leur admiration pour un texte qui, valorisant la raison, venait en quelque sorte mettre en difficulté l'idée selon laquelle les convictions doivent s'étayer seulement sur le plan émotionnel, par exemple. Donc la mise en valeur de la raison dans l'Église catholique a été saluée hors l'Église catholique. Fides et Ratio a été un déclencheur décisif pour l'installation de la relation philosophie-théologie dans le paysage français. Et on peut dire aujourd'hui que, au-delà même des cercles du catholicisme, même des cercles habituellement restreints, on peut dire que s'est installé aujourd'hui dans la culture le fait qu'il est bon de s'intéresser à la question théologique, même si on n'est pas théologien, il est bon de s'intéresser à la question philosophique. Et on peut dire que sur la vie théologique elle-même, la philosophie a reçu une sorte de dignité nouvelle. Vous savez que dans Fides et Ratio, Jean-Paul II avait en quelque sorte tensé quelque peu certains théologiens ou certaines pratiques théologiques qui s'exonéraient ou s'affranchissaient de la philosophie. On peut dire qu'aujourd'hui ce temps est passé et Fides et Ratio a joué aussi un rôle important de ce point de vue.
Au niveau œcuménique et aussi interreligieux, est-ce que l'on peut parler aussi d'une certaine place, d'un rôle qui a été joué ?
Oui, on peut le dire, notamment grâce à des personnalités aussi éminentes que celle de Paul Ricoeur, par exemple. Vous savez que Paul Ricoeur avait été consulté par Jean-Paul II avant même la mise en rédaction de Fides et Ratio, même s'il n'a pas participé à la rédaction de Fides et Ratio. Paul Ricoeur, qui est à la fois d'origine protestante et en même temps très ouvert à la vie intellectuelle du catholicisme, était en quelque sorte un homme des frontières. Et la façon dont il a posé la question du rapport entre foi et raison transcendait d'une certaine manière les frontières confessionnelles habituelles. Donc Paul Ricoeur, je cite son nom parce que c'est un nom très important pour comprendre comment le catholicisme et le protestantisme, tout en maintenant leurs différences qui sont objectives, ont pu entreprendre des relations positives et fécondes sur le terrain académique.
Quelle relecture pourrait-on apporter à cette encyclique, donc 10 ans après, dans un contexte social-économique différent, un contexte politique différent aussi, et un contexte différent également dans les relations entre les différentes religions ?
Oui, alors c'est une question très difficile, dans la mesure où elle fait intervenir des coefficients d'ordre passionnel et pathologique de concurrence ou de conflits interreligieux. Il faut reprendre les choses en amont, de façon pacifiée. Il est vrai que l'articulation positive entre foi et raison est un bien historique multiséculaire de la tradition catholique. Ce n'est pas nécessairement vrai de toutes les autres religions. Même s'il y a de la rationalité et de la foi dans les autres religions, les modes d'articulation ne sont pas les mêmes. Et on peut dire que le catholicisme a beaucoup fait historiquement, notamment au XIIIe siècle avec Thomas d'Aquin, notamment, mais non pas le seul, pour la reconnaissance d'un espace rationnel et raisonnable à l'intérieur même de l'énonciation de la foi. Il est des religions pour lesquelles cet espace est plus réduit, d'autres moins réduits. Donc d'où la conférence et sa réception parfois discutable de Benoît XVI à Ratisbonne, n'est-ce pas, qui montre qu'il y a des conflits qui sont d'ordre quelquefois, pas seulement intellectuel, mais portés par des réalités historiques et par la vie des peuples, n'est-ce pas. Donc le rapport entre philosophie et théologie, le rapport entre foi et raison est certainement l'angle le plus difficile et en même temps le plus nécessaire, le plus exigeant et le plus opportun pour entrer dans une conversation interreligieuse. Donc le dialogue philosophe-théologien, demain, sera au cœur du dialogue interreligieux lui-même.
Il est aujourd'hui très important de rappeler de quelle raison nous parlons.
Bien sûr, la question de la raison doit être distinguée dans son singulier, dans sa singularité, de la pluralité des rationalités. Il y a des rationalités différentes qui font la raison. La raison philosophique, la raison théologique, la raison scientifique et la raison esthétique. La question étant, et c'est ce qui est au fond l'une des questions posées par le discours de Benoît XVI, de faire en sorte que chaque ordre de raison ne se sente pas investi tout à coup d'une mission, par exemple la raison scientifique, d'une mission de discours absolu sur toute autre réalité portée en charge par d'autres rationalités. Donc, d'une certaine manière, une pensée spéculative qui serait purement matérialiste ne ferait pas honneur à la pensée elle-même, à la pensée philosophique. Je pense aussi en France, il y a actuellement un débat extrêmement fort sur les spiritualités sans Dieu, par exemple. Vraie question. Je me demande ce qu'un grec aurait pensé de l'expression spiritualité sans Dieu, car la vie de l'esprit ne refoule pas d'emblée, ni méthodologiquement, ni dans son objet, Dieu. La vie de l'esprit s'ouvre à tous les objets. Donc je crains que dans l'idée d'une spiritualité sans Dieu soit stigmatisé un objet Dieu qui n'ait pas grand-chose à voir avec ce dont le christianisme est porteur.
Il y a donc une interaction nécessaire entre foi et raison, vous l'avez dit. Est-ce que l'on peut considérer que les deux concepts sont en quelque sorte des garde-fous l'un pour l'autre ?
Oui, on peut le dire. On peut le dire qu'une foi sans raison devient folle et une raison sans foi devient elle-même aussi peut être fanatique dans la mesure où elle est prise dans le plus bas degré de son exercice, c'est-à-dire l'instrumentalisation. Pensez par exemple sous la période nazie, on écoutait Beethoven, on écoutait Mozart et en même temps on assassinait de façon rationnelle. Donc une raison qui n'est pas régulée par ce qu'elle appelle d'ailleurs d'elle-même la vérité, et que la foi prend en charge, eh bien, risque toujours elle-même non seulement de se dénaturer, mais de dénaturer les personnes à travers lesquelles elle est censée vivre. Donc il y a là une vraie question qui n'est pas intellectuelle, je le répète. Le rapport foi-raison, c'est une donnée qui appartient au cœur même de la structure des cultures et des civilisations et des sociétés concrètes.
Une dernière question, est-ce que cette encyclique a permis en quelque sorte de réconcilier deux mondes, je pense notamment aux fidéistes et aux rationalistes ?
Alors je ne sais pas si la réconciliation a lieu, je sais qu'il y a toujours du fidéisme, et pas seulement dans le catholicisme, il y a du fidéisme dans d'autres religions, et il y a aussi du rationalisme parfois excessif dans le catholicisme, mais le rationalisme militant athée est toujours très actif en France, mais précisément en installant dans la culture la problématique du rapport entre foi et raison, en montrant que à l'intérieur du christianisme, elle est indissociable. Elle appartient à la façon dont on parle de la foi. Cette façon dont on parle de la foi implique que l'on parle de la raison, et inversement. Donc ceci me paraît décisif pour mettre en quelque sorte en préalable, en difficulté, le rationalisme et le fidéisme.